Désir, c'est que on puisse ressortir de ce moment peut-être en allant plus loin avec le Seigneur et peut-être en prenant des décisions pour le Seigneur. Alléluia. Et je me dis, c'est pas possible qu'on puisse venir dans un moment comme celui-là et repartir comme on est venu, dans le même état dans lequel on est venu. Et je voudrais tellement que dans ce court moment, on puisse vraiment comme se concentrer et dire, Seigneur, moi, ce que je veux, c'est que tu m'amènes plus loin avec toi cet après-midi. Alléluia. Voilà, alors, je suis très heureux d'être avec vous, de partager ce moment. Très heureux aussi, alors ça, c'est un petit peu plus personnel, de revenir dans l'église de Arles. Ça a été mon église quelque temps. Et vous savez, en général, et tous les pasteurs vous le diront, quand vous êtes dans une église et que vous partez, vous laissez toujours un petit morceau de vous dans cette église. Toujours un petit peu. Vous voyez, donc, ça me fait plaisir d'être là cet après-midi, de voir quelques visages d'Arlésiens. Bon, les autres, je vous aime, hein. Mais je vois quelques visages là. Je dis, Seigneur, merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais, hein, dans les vies, dans les cœurs. Alléluia. Voilà, alors quand Emmanuel m'a demandé de partager la parole avec vous cet après-midi, je ne m'y attendais pas forcément, surtout dans un moment comme celui-là, mais il y a tout de suite un thème qui s'est imposé comme une évidence sur mon cœur. Et je voudrais essayer de le partager simplement avec vous. Alors peut-être vous avez vu passer une affiche, je ne sais pas, hein, une vie approuvée par Dieu ou avoir l'approbation de Dieu sur notre vie. Et je crois vraiment que s'il y a quelque chose qui doit nous motiver, c'est qu'il y ait l'approbation de Dieu sur notre vie. Et je voudrais tellement que quelque part, ça puisse nous suivre et nous motiver, dire Seigneur, je veux de ton approbation sur ma vie. Parce que quand Dieu nous approuve, quand il y a l'approbation de Dieu sur notre vie, c'est plus la même chose. Des fois, on chante des chants, des chants un peu guerriers, là. Vous avez remarqué, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est bien de le chanter, mais c'est mieux quand c'est vrai, quoi. Quand il y a l'approbation de Dieu, vous voyez? Alléluia. Alors, on va lire un verset juste en introduction, et puis on en lira deux, trois autres par la suite. Un tout petit verset dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 7. Ah, mais je l'ai en face. Oh, c'est super ici. Ça s'est modernisé, hein, depuis. Merci. Voilà, Proverbes, chapitre 16, verset 7, où l'auteur dit ceci, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. » Il est question là de l'approbation de Dieu. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, d'une femme, alors il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Incroyable. Il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Cet après-midi, le but de ce message, qui se voudra être simple, est pas long. Alors quand un pasteur dit pas long, il faut se méfier. Mais je vous garantis, je ne serai pas long. Je vous garantis. C'est que vraiment, on puisse ressortir les uns et les autres, peut-être en disant ceci. Seigneur, je n'ai peut-être pas tout compris, je n'ai peut-être pas tout saisi, peut-être je ne suis pas parfait, mais Seigneur, une chose est sûre, ce que je veux, c'est que dans ma vie, il y ait ton approbation. Ce que je veux, c'est que tu m'approuves. Je crois qu'on n'est jamais plus à l'aise, on n'est jamais aussi bien dans ses baskets quand on sait que Dieu nous approuve dans ce qu'on fait, là où on est, dans notre façon de faire, dans notre façon de fonctionner, on n'est jamais autant à l'aise quand on sait que Dieu est là et qu'il approuve ce qu'on fait. A contrario, on a beau montrer aux autres que tout va bien, mais quand on sait que dans notre vie, il y a des choses qui ne sont pas claires, quand on sait que dans notre vie, Dieu ne peut pas nous approuver à cause de certains fonctionnements ou de certaines pratiques, alors on a beau essayer de montrer aux autres que tout va bien, on a beau essayer de paraître, au fond de nous, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Et je voudrais m'arrêter rapidement sur trois exemples. On va être concret tout de suite. Je ne vais pas commencer à faire une introduction de 3 km de long. Hein, on va s'arrêter sur trois exemples de personnages dans la Bible, de bons, où on va voir qu'il y avait l'approbation de Dieu et on va essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'ils n'étaient pas meilleurs que les autres, ils n'étaient pas parfaits, mais il y avait l'approbation de Dieu et puis on terminera par un mauvais. Quelqu'un qui, à un moment donné, a eu l'approbation de Dieu sur sa vie, mais il l'a perdue. Et on va essayer les uns les autres d'en retirer quelque chose pour nous, pour toi, pour moi. Et on terminera par un moment devant Dieu, parce que je crois vraiment que cet après-midi, Dieu veut peut-être manifester quelque chose dans nos cœurs. Alléluia. Le premier auquel j'ai pensé, on va commencer par les deux bons. Le premier qui m'est tout de suite venu à l'esprit, et je voudrais qu'on s'y arrête quelques instants, c'est celui qu'on appelle le prophète Samuel. Le prophète Samuel. Alors, vous vous rappelez que Samuel, c'est d'abord, c'est une naissance miraculeuse. La maman de Samuel, Anne, était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et puis, je ne rentre pas dans les détails, Dieu va poser sa main, l'Éternel s'est souvenu d'elle. Elle a eu un enfant, Samuel, et cet enfant, elle va le consacrer au Seigneur. Et puis la Bible nous dit, alors je vais employer des mots d'aujourd'hui, la Bible nous dit qu'elle va le confier à son maître de stage. Elle va le confier à un certain Élie le sacrificateur. Et Samuel, il va grandir dans ce contexte-là, avec Élie le sacrificateur, avec ses deux fils. Je vais y revenir. Et puis, c'est là que l'appel de Dieu va retentir dans la vie de Samuel. Vous connaissez ce texte, hein, c'est Samuel qui ne connaît pas encore l'Éternel et Dieu l'appelle. Samuel, Samuel. Puis vous rappelez, il va aller voir Élie. Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Et puis, bon, Élie va avoir un peu de retard à l'allumage. Et au bout de la troisième fois, il comprend que c'est Dieu qui appelle Samuel. Alors il va lui dire, ben, écoute, si l'Éternel t'appelle, tu diras, parle, car ton serviteur écoute. Et puis Dieu va l'appeler encore. Et puis Dieu va l'appeler. Et puis, le texte termine en disant, on va le lire dans 1 Samuel chapitre 3, versets 19 et 20. 1 Samuel chapitre 3, versets 19 et 20. C'était bon ce qu'il y avait. Voilà. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et regardez le verset 20, le verset qui suit. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, et tu vas me laisser le verset, hein, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Et notez bien, ce n'est pas quelques personnes ici ou là qui ont reconnu que, tiens, ce gars-là, ce jeune-là, il a quelque chose. Mais la Bible dit bien, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, du nord au sud et du sud au nord, tout le monde a dit, tout le monde a vu, tout le monde a reconnu que ce garçon, il avait quelque chose sur sa vie, il y avait l'approbation de Dieu. On a reconnu que là, c'était un homme de Dieu. Vous allez me dire, c'était peut-être pas compliqué. Parce que quand vous regardez le contexte dans lequel a évolué Samuel, je l'ai dit, il a été confié à un maître de stage un petit peu particulier, Élie le sacrificateur. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais Élie le sacrificateur, sur la fin de sa vie, il n'était plus trop dans le coup, quoi. Il y avait des choses qui se passaient qu'il n'aurait jamais dû accepter, jamais dû tolérer, puis fermer les yeux. Et Samuel, il baignait là-dedans. Qui plus est, ce Élie le sacrificateur, il avait deux fils, Ophni et Phiné. Ophni et Phiné. Et Ophni et Phiné, qui en plus étaient sacrificateurs de l'Éternel, c'est-à-dire les références spirituelles, quoi, des hommes de Dieu, enfin, censés être des hommes de Dieu. La Bible nous dit qu'ils se comportaient, excusez-moi l'expression, comme des goujats. Comme des goujats. C'est même choquant quand on le lit. Il nous a dit qu'ils couchaient avec les femmes à l'entrée du temple. Vous vous rendez compte? Des hommes de Dieu, ça? Et tout le monde le savait, c'était de notoriété publique. Tout le monde savait que ces gars-là, ils se comportaient n'importe comment. Et Samuel, il baignait là-dedans. Samuel, il était dans ce contexte-là. Et ça aurait été tellement facile pour lui de se cacher derrière tout ça pour dire, ben, je vais faire pareil. Après tout, finalement. Mais la Bible nous montre qu'il est resté droit. Il est resté intègre. J'aimerais déjà dire ceci, c'est que avoir l'approbation de Dieu dans notre vie, ce n'est pas une affaire de contexte. C'est d'abord une affaire de cœur. Souvent, des fois, on peut se cacher derrière notre contexte pour dire « Oui, mais vous comprenez, je suis comme ça, je fais ça parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là. » Non, non, non. L'approbation, si tu veux l'approbation de Dieu dans ta vie, sur ma vie, ce n'est pas une affaire de contexte. C'est d'abord une affaire de cœur. Oui, Samuel, il a, excusez-moi l'expression, il a béni dans un contexte pourri. Il y avait des choses, c'était abject, et tout le monde le savait, et tout le monde le voyait, et lui, il était au milieu, et il aurait pu se cacher derrière ça, il aurait pu se trouver des excuses, en disant, mais moi, le contexte qui a été le mien n'a pas été bon, et puis les exemples que j'ai eus devant moi n'ont pas été bons. Mais Samuel, c'est un homme qui aimait Dieu de tout son cœur. Il ne le connaissait pas encore, il n'y avait pas encore... Mais certainement, sa maman lui avait déjà inculqué des choses. Vous voyez, des fois, les choses qu'on nous a inculquées, ça reste, hein, ça reste. Et quand vous lisez, je vais vous lire quelques versets, mais quand vous lisez l'histoire de Samuel, je ne les ai pas donnés, ne cherche pas, je vais simplement les citer, mais il y a quand même des versets qui sont forts, il y a des versets clés. Alors je vous en cite trois. Par exemple, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 21, il est dit « Le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. » Sans que là, il y avait quelque chose chez lui. Il grandissait auprès de l'Éternel. Il ne grandissait pas trop loin, non, auprès. auprès de l'Éternel. Vous allez un petit peu plus bas, 1 Samuel 2, verset 26, il est dit « Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. » Waouh ! Et puis vous allez encore un petit peu plus loin, 1 Samuel chapitre 3, les trois premiers versets, il est dit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. » Il ne servait pas les hommes, hein. Il était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes en ce même temps. Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Écoutez bien. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Et moi, je l'ai souligné à ma Bible. Alors, moi, il y a les petits détails de la Bible, je raffole de ça. Il était couché dans le temple de l'Éternel. Où était l'arche de Dieu. Alors si on lit ça vite, ouais, bon d'accord, ok. Il couchait dans le temple. Vous imaginez, vous couchez dans l'église, lui c'était ça. Mais lui, il couchait où était l'arche de Dieu. Et c'est un détail assez intéressant parce que, on ne va pas faire une étude, mais l'arche de l'Éternel dans l'Ancien Testament, ça symbolise, ça image la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et lui, il dormait là où était l'arche de Dieu. Ça veut dire quoi? On ne va pas aller chercher midi à 14h, faire une grande étude en long et en large en travers. Ça veut dire simplement que Samuel, c'était un garçon qui aimait la présence de Dieu. Il aimait la présence de Dieu, il la recherchait, c'était quelque chose qui était important pour lui. Et j'aimerais dire cet après-midi que quand on aime la présence de Dieu, quand on a soif de la présence de Dieu, quand on cherche la présence de Dieu, alors forcément, il y a des fonctionnements qui ne pourront plus être les nôtres. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Pourquoi ? Parce qu'on aime la présence de Dieu. Et parce qu'on aime la présence de Dieu et qu'il y a des choses qu'on repoussera dans sa vie, alors il y aura l'approbation de Dieu. Et j'aimerais, concernant Samuel, peut-être nous dire ceci cet après-midi. Je ne sais pas dans quel contexte tu vis. Je ne sais pas quel est ton contexte. Peut-être c'est comme Samuel, tu viens dans un contexte pas évident. On a tous, et aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué, on peut vivre dans un contexte familial compliqué, quand tout le monde ne connaît pas le Seigneur à la maison, quand il y en a un qui est converti et pas l'autre, et des fois on est au milieu, et puis c'est pas simple, peut-être c'est le cas de quelqu'un cet après-midi. On peut vivre dans un contexte compliqué, que ce soit au lycée, au collège, dans son milieu professionnel, dans son quartier, et c'est compliqué. Et on voit des choses qu'on ne devrait pas voir, on entend des choses qu'on ne devrait pas entendre, comme Samuel, avec ses deux soi-disant frangins, enfin frangins, Ophni et Finé qui étaient là, et il entendait, il voyait des choses, et quelque part, peut-être certainement, il était choqué de ce qu'il voyait, entendait, et lui, il baignait là-dedans. Et des fois, on peut vivre, nous aussi, dans des contextes où c'est pas évident, et on pourrait, ça serait facile de se cacher derrière le contexte pour dire, ouais, mais bon, puisque c'est ça, alors bon, ben moi, je vais faire comme tout le monde, je vais faire comme les autres, et puis... Alors si peut-être c'est ton cas cet après-midi, si peut-être ton contexte n'est pas simple, il n'est pas évident, j'aimerais te dire, repense à Samuel. Il avait un contexte compliqué, difficile, mais Samuel, malgré tout, il aimait la présence de Dieu. Et à un moment donné, Dieu a mis son approbation sur lui. Si tu aimes la présence de Dieu, si tu la recherches, si tu as soif de la présence de Dieu, malgré peut-être ton contexte difficile, et cet après-midi, Dieu le sait. Alors sois sûr d'une chose, c'est que Dieu mettra son approbation sur toi. Il te gardera. Mais ne te laisse pas emporter par ton contexte. Ne te cache pas derrière ton contexte en disant, ouais, mais moi, c'est tellement compliqué. Si tu savais, pasteur, bon, ce que je vis à la maison, ce que je vois, peut-être même des chrétiens t'ont déçu. Tu dis, c'est ça les chrétiens? Peut-être que tu as vu des choses que tu n'aurais pas dû voir. Tu as entendu des choses que tu n'aurais pas dû entendre. Et tout ça, ça t'a choqué, ça t'a brusqué. Mais j'aimerais te dire, ne laisse pas ces choses t'empêcher d'aimer la présence de Dieu. Parce que plus tu vas aimer la présence de Dieu, plus Dieu va mettre son approbation sur ta vie. Et Dieu va pouvoir se servir de toi. Samuel, un garçon qui a vécu dans un contexte compliqué, peut-être comme quelqu'un cet après-midi, peut-être comme toi, mais il avait l'approbation de Dieu. Et mon désir cet après-midi, c'est que, quel que soit le contexte, tu peux dire, moi Seigneur, ce que je veux, c'est de ta présence. On a chanté des chants, là, je t'aime Jésus, etc. Seigneur, malgré mon contexte, je veux te dire, je t'aime Jésus. Moi, j'ai soif de ton approbation sur ma vie. Alléluia. Un deuxième gars, qui c'est tellement évident, qui a eu l'approbation de Dieu sur sa vie, Et j'aime beaucoup son histoire parce que, j'allais dire, elle est tellement d'actualité, surtout aujourd'hui, c'est Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph dans l'Ancien Testament. Alors, bien sûr, dès qu'on parle de Joseph, une des premières choses qui nous vient à l'esprit, c'est cette fameuse histoire avec Madame Potiphar. Quand on lit cette histoire, des fois je me dis, mais y en a qui pensent que la Bible c'est ringard, mais franchement c'est d'actualité. Hein. C'est franchement d'actualité. Et ce qui est incroyable, c'est cette femme qui vient, on va lire quelques versets, cette femme qui vient et qui dit à Joseph, couche avec moi. Et la Bible nous dit que je vais y revenir, Joseph refusa, il refusa. La particularité, vous trouvez ça dans Genèse 39, la particularité de ce chapitre 39 de la Genèse, et vous le relirez à tête reposée à la maison, c'est que quatre fois, c'est pas anodin, quatre fois dans ce chapitre, où il y a 23 versets, quatre fois il est dit « Mais Dieu fut avec lui ». Mais Dieu fut avec lui. Il y avait l'approbation de Dieu. Il y avait l'approbation de Dieu. Dieu était avec lui. Lui aussi, contexte pourri. Vous voyez, ce n'est pas une affaire de contexte. C'est d'abord une affaire de cœur. Et dans l'histoire de Joseph, il y a deux choses que je voudrais faire ressortir, toutes simples. La première, c'est que je crois que c'est important de réaliser que ce qui va aussi déterminer l'approbation de Dieu sur notre vie, ce sont nos choix et nos décisions. Nos choix et nos décisions. Peut-être on va lire deux versets. J'ai cité cet épisode, Genèse 39, versets 7 et 8, juste ça. Le verset d'avant, voilà. Encore avant, voilà. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, donc de Potiphar, porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Et là, moi ce verset, il m'interpelle. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Et la Bible est claire, regardez, moi ça m'a interpellé et je voudrais le souligner. Il refusa. Ce que je veux dire, c'est que Joseph, il a été clair. Il a été sans ambiguïté. Et alors que je préparais ce moment, j'avais ce mot qui revenait sur mon cœur, ambiguïté. Et peut-être ça va parler à quelques-uns. Peut-être le Seigneur veut te parler au travers de ça. Joseph, il a été clair. Il n'a pas été ambigu. Ce que je veux dire, c'est que il savait, Joseph, que s'il faisait ça, s'il rentrait dans ce jeu-là, s'il rentrait dans ce fonctionnement-là, ça aurait pu avoir, excusez-moi, quelques avantages. Hein. On va être clair. S'il avait couché avec la femme du patron, ça aurait peut-être pu ouvrir quelques portes. Hein. Ça aurait pu faciliter les choses. Il aurait pu, quelque part, avoir encore plus de prérogatives que ceux qu'il en avait déjà. Mais il a été clair. Il a refusé. Ce que j'ai envie de dire, ce que je veux dire plutôt, c'est que il n'a pas cherché à jouer sur les deux tableaux. Dans le sens que il n'a pas essayé de dire non, je ne peux pas faire ça, non, écoute, non, je ne veux pas le faire. Je vais faire un parallèle parce que ça me vient à l'esprit tout en vous le disant. Vous vous rappelez, dans une autre histoire, on connaît bien l'histoire de Balaam. Rappelez Balaam, l'ânesse, etc. On connaît bien cette histoire. Hein. Balaam, quand les émissaires de Balak sont venus le trouver et qu'il va dire je vais demander à Dieu ce qu'il en pense. Vous relirez l'histoire dans Nombre 22. Je vais demander à Dieu ce qu'il en pense. Dans la nuit, Dieu vient lui parler. Il dit, qui sont ces hommes qui sont avec toi? Alors, Balaam, il va leur expliquer. Il va dire, tu ne vas pas là avec eux. Et vous relirez, moi, ça m'a toujours interpellé. J'ai dit, gonflé quand même ce Balaam. Il va dire, l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Alors, ça sous-entend, écoutez les gars, moi, je serais bienvenu, mais... Alors, je ne viens pas parce que Dieu ne veut pas. Bon, moi, je serais bienvenu, mais... Vous voyez, il est sur les deux tableaux, quoi. Vous voyez ? Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que les émissaires de Balak sont revenus. Et ils sont revenus avec plus de cadeaux encore. Parce qu'il a laissé la porte ouverte. Vous voyez ? Mais ici, et j'y reviens, Joseph, il est clair. Il ne joue pas sur les deux tableaux. Il ne laisse pas espérer Madame Potiphar, vous voyez ? En essayant de jouer un peu sur les deux tableaux, en se disant, bon, hein, en lui laissant croire, ou peut-être en laissant espérer que peut-être éventuellement... Ça pourrait se faire. Il refusa. Il refusa. Je ne l'ai pas mis le verset, mais quand vous allez un petit peu plus loin, c'est Genèse 39, verset 10. Il y a un petit détail là aussi. Il nous a dit qu'il refusa de coucher avec elle. Il est même dit, d'être avec elle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a même refusé de flirter avec elle. Ouh là là, ce pasteur-là. Même flirter, il a refusé. Il n'a pas voulu commencer à jouer, vous voyez, il était un peu là. Il refusa. Il refusa. J'aimerais peut-être dire peut-être cet après-midi à quelqu'un. C'est peut-être pour toi cet après-midi, peut-être ça parle à quelqu'un. Tu veux de l'approbation de Dieu sur ta vie ? Ne sois pas ambigu. Ne sois plus ambigu. Sois clair. Et peut-être dans un domaine, peut-être tu n'es pas clair. Alors, peut-être tu ne t'en rends pas compte, ou c'est fait consciemment ou pas consciemment. Mais peut-être tu n'es pas clair. Tu es là un peu entre les deux et sois clair. Et quand on est clair, quand on n'est pas ambigu, comme Joseph l'a été, il y a l'approbation de Dieu sur notre vie. Il y a l'approbation de Dieu sur notre vie. Ce sont nos choix qui déterminent aussi l'approbation de Dieu sur notre vie. Et peut-être cet après-midi que ton problème, ta difficulté, c'est peut-être parce que justement, tu n'es pas clair. Tu es ambigu, tu es entre deux eaux, tu joues sur les deux tableaux. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais quand on est clair, Dieu met son approbation. Alléluia. La deuxième petite leçon que l'histoire de Joseph nous donne, c'est qu'elle met à mal une conception qu'on peut avoir des fois. C'est-à-dire qu'on se dit, s'il y a l'approbation de Dieu sur ma vie, sur nos vies, sur un projet, tout à l'heure je vous parlais de ces chants qui disent « si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Alors qui sera contre nous ? Des fois on a l'impression que s'il y a l'approbation de Dieu, alors tout va rouler. Ça va être impeccable, il n'y aura pas de problème, ça va. Parfois oui, mais parfois non. Parce que l'histoire de Joseph, elle nous le montre. Hein. Il est clair, il est droit, il est pur. Il refuse de coucher avec cette femme. Résultat, il se retrouve en prison. On pourrait se dire, c'est ça, servir Dieu ? C'est ça, marcher avec Dieu ? C'est ça, avoir l'approbation de Dieu ? je me retrouve en prison. En plus, avec quelle réputation ? Parce que vous vous rappelez ce que Mme Potiphar a fait. Elle l'a calomnié. Elle l'a fait passer pour un gars pervers. Elle l'a fait passer pour un gars léger. Ouais, il m'a fait ci, il m'a fait là, etc. Et il est arrivé en prison, précédé d'une réputation, franchement, pas top. Hein. Et on pourrait se dire, c'est ça l'approbation de Dieu ? Mais là encore, une fois de plus, regardez, on va le lire. On va le lire, regardez, ça m'interpelle. Genèse 39, verset 20, il nous a dit, il prit Joseph, là il questionne Monsieur Potiphar, quand il a appris ça et qu'il écoute la version de sa femme, il est en colère, je peux le comprendre. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Et regardez la suite, l'Éternel fut avec Joseph, l'approbation de Dieu. Oui, il s'est retrouvé en prison, oui, dans un contexte compliqué, mais l'approbation de Dieu était là. Et il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison, ça c'est incroyable, le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. C'était lui le boss. Incroyable ça. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. C'est répété encore. L'approbation de Dieu. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Mais c'est incroyable. Vous imaginez si Joseph avait commencé à regarder à ce que l'un disait, l'autre pensait, etc., etc. J'aimerais peut-être dire à quelqu'un cet après-midi, arrête de regarder à ce que les autres vont dire ou vont penser. Toi, sois clair avec Dieu. Toi, marche avec Dieu et Dieu va t'approuver. Souvent, le problème, c'est qu'on s'arrête et c'est humain. Et souvent, c'est notre nature. Qu'est-ce que les autres vont penser ? Qu'est-ce que les autres vont dire ? Si Joseph avait commencé à penser à sa réputation, mais il serait passé à côté du plan de Dieu. Le plus important, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, c'est ce que Dieu pense de toi. C'est qu'il y ait l'approbation de Dieu sur ta vie. Et regardez, tout à l'heure, on a lu en introduction ce verset des Proverbes. Vous vous rappelez ? Je n'ai pas oublié. Hein ? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Eh bien, vous avez la réalisation dans l'histoire de Joseph. Parce qu'il a eu l'approbation, non seulement de Dieu, mais surtout, Dieu a disposé favorablement à son égard le gars de la prison. Vous savez, à cette époque-là, les responsables de la prison, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Hein. Ils en avaient vu passer des prisonniers. Et en général, les prisonniers étaient plutôt traités comme de la chair fraîche qu'autre chose. Et là, j'allais dire humainement parlant, allez savoir pourquoi, le gars, le chef de la prison, il a pris en sympathie ce Joseph qu'il ne connaissait pas, et il lui a même confié les clés de la prison. C'était Joseph le boss de la prison, c'est incroyable. Mais c'est la réalisation de ce qu'on a lu dans les Proverbes. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est ce qui s'est passé. Et même si ça a été compliqué dans un certain sens pour Joseph, parce qu'il est passé sur le coup pendant quelque temps pour un gars pervers, mais Dieu l'a rendu agréable aux yeux du chef de la prison, et vous connaissez la suite de l'histoire de Joseph, ce qu'il est devenu. Dieu l'a même justifié. Oh, la Bible ne dit pas tout, mais quand il a été élevé et qu'il est devenu Premier ministre, en quelque sorte, j'aurais aimé un petit peu voir la tête de Madame Potiphar après. Ça, vous voyez ? L'approbation de Dieu, c'est important. Et c'est pour ça que je disais ce qui doit nous motiver cet après-midi. Je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, je ne sais pas où tu en es avec Dieu. Mais que ce qui puisse te motiver, c'est dire, Seigneur, je n'ai peut-être pas tout saisi, j'ai peut-être encore des lacunes, des manquements, des défauts, mais je veux de ton approbation sur ma vie. Parce que je sais que si j'ai l'approbation de Dieu sur ma vie, je vais vivre des choses incroyables avec toi. Et puis, vous avez promis que je ne serai pas long. Je vais terminer par le mauvais exemple d'un gars qui a eu l'approbation de Dieu et pour cause, et qui a fini par la perdre à un moment donné, c'est David. C'est David. Incroyable. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui a vaincu Goliath. Incroyable. L'homme qui a battu les Philistins, les Moabites, les Ammonites et tous les Hittes que vous voulez, il les a tous battus. Quand vous lisez l'histoire de David, et puis vous vous rappelez, il y a cette histoire de Bathsheba là, qui vient comme une tache au milieu du tableau, qui vient ternir le tableau. Et non seulement il y a l'histoire de Bathsheba, mais il y a le meurtre de son mari derrière. Quand on lit cette histoire, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est incroyable. Vous voyez, quand on commence à descendre, ça peut aller très vite après. Et des choses dont on pensait qu'on serait incapable, moi jamais je ferais ça. Oh, vous auriez dit ça à David avant, vous auriez dit ça à David quelques mois avant, en lui disant, tu sais ce que tu vas faire ? Non seulement tu vas coucher avec une femme qui n'est pas ta femme, et en plus tu vas tuer son mari. Vous auriez regardé, vous auriez dit, ça va pas, non ? Je dis, mais attends, tu me prends pour qui ? Je ne suis pas un païen, moi, je ne suis pas... Quand on ne veille pas. Quand on ne veille pas. On estime à peu près, on ne va pas se battre sur les chiffres, hein, la période entre le moment où David a péché avec Bathsheba et tout ce qui s'en est suivi, et le moment de son repentir, on estime la période à environ une année. On ne va pas se battre sur les chiffres, hein, environ une année. Et ce qui est incroyable, c'est que quand vous lisez un petit peu l'histoire de David, vous rendez compte d'une chose, c'est que pendant cette année-là, David, ma foi, il a continué à faire ce qu'il faisait toujours. Hein. Il est resté roi. Il a continué à monter au temple. Il a continué à faire son job. Il a continué à faire comme si rien n'était pendant environ un an, à peu près. Aujourd'hui, si c'est avec des mots d'aujourd'hui, on dirait David, ce qu'il a fait, ben, il venait à l'église tous les dimanches. Hein. Il était là, il servait la Sainte-Seine. Mais il n'était pas bien. Il savait à l'intérieur qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, qu'il n'était pas clair. Vous allez me dire, comment tu le sais ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et quand vous allez dans le psaume 32, et moi c'est un psaume que j'aime beaucoup, c'est ce fameux psaume de repentir, qui commence en disant « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Au verset 3, David va parler de cette période entre le moment où il est tombé dans cette situation, dans le péché, et le moment où il s'est repenti. Il va dire ceci, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Il était sec. » Il avait beau montrer aux autres que tout allait bien, il avait beau essayer de sauver les apparences, il avait beau essayer d'aller au temple, il avait beau continuer à être le roi, à faire toutes ses fonctions, etc. Mais à l'intérieur, là, il est en train de nous décrire ce qui se passait à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'était pas la joie. Hein. n'était pas la joie. Il n'était pas bien. Il n'était pas bien. Vous savez, si on est honnête avec nous-mêmes, quand on n'est pas clair devant Dieu, quand on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas, on a beau essayer de sauver les apparences, de montrer devant tout le monde que tout va bien, mais à l'intérieur, bien sûr, on peut toujours choisir de se mentir à soi-même. Il y a 2-3 mois de ça, là, j'ouvre une petite parenthèse que je referme, à l'Assemblée de la Seyne-sur-Mer, un dimanche matin, j'ai introduit le message en disant « Selon vous, est-ce qu'un chrétien ment ?» Alors tout le monde a dit « Non !» Ça ne ment pas un chrétien. Alors j'ai dit, je vais reposer la question différemment. Est-ce que parfois, on ne ment pas dans le sens qu'on se ment? Oui, on ne ment pas aux autres, mais on se ment à soi-même. Et là, ils ont dit, ah, oui, d'accord. Oui, un chrétien, ça ne ment pas. Mais combien de gens, combien de jeunes? Oui, ils ne mentent peut-être pas aux autres, mais on se ment à soi-même. Parce qu'on sait qu'il y a des choses, ce n'est pas clair, ce n'est pas droit, ça ne va pas. On sait que quelque part, Dieu ne peut pas nous approuver, Dieu ne peut pas nous suivre, Dieu ne peut pas nous valider dans ce fonctionnement-là. Mais on se ment à soi-même, on se trouve des excuses, on se trouve des prétextes. On s'invente des raisonnements. Je disais cette semaine dans une de nos réunions, combien de fois on m'a dit, oui, pasteur, c'est vrai, je sais que ce n'est pas bien, je sais, pasteur, mais Dieu me comprend. Dieu me comprend. Alors, tu es en train de me dire que Dieu, en fait, à toi, il t'a donné une dérogation, c'est ça? Dieu me comprend. Non, Dieu ne te comprend pas, non? Non. Je voudrais peut-être cet après-midi m'adresser à peut-être à des David qui sont là cet après-midi. Peut-être qu'il y a des choses dans ton cœur, dans ta vie, tu le sais, c'est pas clair. C'est peut-être des fréquentations. C'est peut-être un fonctionnement qui est le tien. C'est peut-être un péché. C'est peut-être une pratique, un fonctionnement qui est le tien. Et tu sais au fond de toi, tu sais en regardant la parole, en venant dans des moments comme celui-ci, tu sais au fond de toi que quelque part, Dieu ne peut pas cautionner. Tu le sais. Mais peut-être jusqu'à maintenant, tu te trouves des excuses, tu te mens à toi-même. Et voilà. Mais en même temps, même si peut-être on ne veut pas se l'avouer, peut-être tu es comme David. Tant que tu gardes ça, même si tu te mens à toi-même, tu n'es pas bien à l'intérieur. Comme David l'était, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Ça n'allait pas quoi, à l'intérieur. Tu sais que quelque part, Dieu ne peut pas t'approuver. Alors peut-être cet après-midi, ce simple message, ce court message, j'arrive presque à la fin, il est peut-être pour toi. Il est peut-être pour toi. Il y a peut-être, mais c'est même sûrement, il y a une issue pour toi. David, j'ai pas lu la suite du verset. On a psaume 32, verset 5. Oui, David dit verset 4, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Mais il continue en disant, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Et cet après-midi, quelque part, peut-être c'est le moment pour capituler devant Dieu. C'est le moment pour tout mettre à plat devant Dieu, peut-être pour dire, Seigneur, j'arrête de vouloir quelque part peut-être me tromper moi-même, de vouloir sauver les apparences, peut-être d'essayer de me convaincre que ce n'est pas si grave que ça, qu'il y en a qui font pire, que quelque part moi, ce n'est pas pareil. Et puis peut-être, je mets tout ça, j'arrête, Seigneur. Et je viens devant toi, Seigneur, je te demande pardon. Mais Seigneur, secours-moi, parce que ce que je veux, c'est ton approbation sur ma vie. Et je voudrais tellement que ce soit peut-être un moment de déclic, peut-être pour quelqu'un. Même si c'est que pour une personne, bon, je dis gloire à Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est mettre son approbation sur ta vie. Parce que quand il y a l'approbation de Dieu sur notre vie, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des accros, mais quelque part, Dieu est avec nous. Et ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout ce que le monde peut nous donner. On sait que Dieu est là, on sait que Dieu nous conduit, on sait que Dieu nous dirige, on sait que quand il faudra, il ouvrira la porte ou la fermera. On sait que Dieu est là, parce qu'il y a l'approbation de Dieu. Mais peut-être cet après-midi, peut-être d'abord au préalable, il faut peut-être capituler devant Dieu, rendre les armes, dire Seigneur, j'arrête de me mentir à moi-même. Seigneur, je sais que cette fréquentation n'est pas bonne pour moi, elle me tire vers le bas. Je sais, Seigneur, que ce fonctionnement, ça ne va pas. Je suis entre les deux, je joue surtout sur les deux tableaux. J'ai un peu de toi, Seigneur, et puis un peu du reste. Et Seigneur, je sais que tant que je continue comme ça, mais ça n'ira pas. Seigneur, cet après-midi, Je veux vraiment, Seigneur, comme Samuel, je veux aimer ta présence, je veux te chercher. Et je veux de ton approbation sur ma vie. Et je suis convaincu que, et vraiment, j'avais ce mot sur mon cœur, ça venait, je me dis, Seigneur, comment je peux placer ça? Ambigu, sors de l'ambiguïté cet après-midi, sors de ton ambiguïté. Et mets ça devant Dieu, dis, Seigneur, secours-moi, afin qu'on puisse dire, comme ça a été dit dans la parole, oui, l'Éternel fut avec Joseph, oui, mais l'Éternel est avec Patrick, l'Éternel est avec toi, l'Éternel est avec toi, l'Éternel est avec toi. Parce que ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Parce que c'est ce que Dieu veut. Alors, on va prier. Peut-être cet après-midi, l'occasion a été donnée de capituler et surtout de grâce. N'écoute pas ou n'écoute plus les mensonges du diable. N'écoute plus les mensonges du diable. Te dire, ah, laisse tomber, tu peux faire les deux, tu peux rester comme ça. Il y en a qui font pire que toi. Puis tu sais, tu vois ton contexte, Dieu te comprend. Écoute plus tout ça, mets-le de côté et choisis de dire, Seigneur, moi, ce que je veux, c'est ton approbation. Parce que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, d'une femme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Seigneur, je veux vivre ces choses-là dans ma vie. Alors, je m'arrête là. J'ai promis que je ne serai pas long, je m'arrête là. Mais je voudrais qu'on ait quelques instants devant Dieu. Après, si les musiciens veulent s'approcher, vous vous approchez, vous les préparez un chant, vous le faites. Je ne sais pas ce que vous avez prévu. Mais je voudrais qu'on prenne juste un moment devant Dieu, parce que je crois que c'est important. Je crois que c'est important. Vraiment, je ne suis pas prophète. Mais vraiment, je sentais sur mon cœur en préparant cette réunion que vraiment, il y en a plusieurs. Il y a tout un tas d'ambiguïtés dans ton cœur, tu le sais, au fond de toi. Et il faut quelque part que ça stoppe, que ça s'arrête. Parce que ce que Dieu veut mettre, c'est sa validation sur ta vie. C'est son approbation. Mais tant que tu restes dans certaines ambiguïtés, Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Mais cet après-midi, Dieu ne te juge pas, mais c'est l'occasion de dire, Seigneur, stop, j'arrête tout ça. Et comme Joseph, je veux être clair. Tout ça, c'est terminé. Je veux mettre ça à plat devant toi. Seigneur, ce que je veux, c'est toi. C'est ta présence. C'est ton approbation. Alors, on va courber nos fronts, simplement. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, cet après-midi, ce n'est pas mes mots qui peuvent convaincre, Seigneur. Moi, mes mots sont faibles, Seigneur. Mais je sais une chose, c'est que ton esprit, lui, parle. Lui, il convainc. Il convainc, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, de toucher les cœurs cet après-midi. De te glorifier, de te manifester. S'il y a, et je sais qu'il y en a, Seigneur, des David ce matin, cet après-midi. Alors je te prie vraiment de les visiter. Pour que devant toi, ils puissent capituler. Alléluia. Alléluia. On va faire quelque chose. Si vous voulez commencer, sentez-vous à l'aise. On va faire quelque chose. Moi, je crois que c'est vraiment un moment important. Et ce n'est pas pour moi qu'on le fait. On est devant Dieu. C'est pour toi. Dieu veut mettre son approbation sur ta vie. Qu'importe ton passé, qu'importe tes erreurs, il veut mettre son approbation sur ta vie. Mais s'il y a des ambiguïtés, il faut en sortir cet après-midi. J'ai dit tout à l'heure que ce sont nos choix, nos décisions qui vont aussi déterminer l'approbation de Dieu sur notre vie. Et cet après-midi, je crois vraiment que c'est un moment de décision, de choix. Mais je voudrais qu'on puisse vraiment sceller ça devant Dieu. On scelle ça devant Dieu. Ce n'est pas simplement un moment d'émotion là où... Non, on scelle ça devant Dieu, voilà. On scelle ça devant Dieu. Alléluia. Je me souviens quand j'ai donné mon cœur au Seigneur et que j'ai décidé de m'engager avec le Seigneur, j'étais très jeune. Mais j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas tout compris, je ne sais pas ce que me réserve demain, mais je veux m'engager avec toi. Je me suis engagé avec le Seigneur. Et je me souviens d'une chose, c'est que dans les mois et dans les années qui suivent, il y a eu des luttes, il y a eu des combats, mais je me souvenais toujours d'une chose, c'est qu'un jour j'avais scellé un engagement avec le Seigneur. Et ça m'a gardé, ça m'a aidé, ça m'a... Le Seigneur a été là. Et c'est pour ça que je crois que c'est important, à un moment donné, de sceller vraiment un moment avec le Seigneur, dire, Seigneur, je me lève et je choisis, Seigneur, de sortir de ça, de sortir de mon ambiguïté, parce que ce que je veux, c'est de ton approbation. Alors, on va faire quelque chose. Peut-être je ne veux mettre personne mal à l'aise. Peut-être simplement, te lève à ta place. On va prier. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il faut du courage. Je sais qu'il faut du courage. Il y a des gens courageux. Mais c'est devant Dieu, hein. Et Dieu aime ce genre de courage-là. Dieu aime ce genre de courage-là. Alléluia. 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 Seigneur, tu le fais cet après-midi. Tu convaincs par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une main que Dieu te tend cet après-midi. Il veut mettre vraiment sa marque sur toi, sa validation. Alléluia. Mais il faut que tu sortes de l'ambiguïté. Il faut que tu sortes de ça. Alléluia. Quelle que soit cette ambiguïté, peut-être même il y en a plusieurs. Dieu ne te juge pas cet après-midi, mais il faut que tu prennes une décision. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Jésus. Alléluia.